Où est-ce qu'on les trouve, les coins à galinettes?
Non, bah ça,
c'est...
Ça va rien du Bouchonnois, il vous dira jamais où je me trouve le coin à galinettes.
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio B avec
Agnès,
Philippe,
Fabrine,
Franck
et Florine, émission à géométrie variable des bénévoles de la Grange au Parapluie. Aujourd'hui, un thème qui nous tient à cœur, nous allons parler de la
nature,
la chasse,
la pêche
et surtout,
les traditions.
Aujourd'hui c'est dimanche et Jean-Louis est content. C'est son anniversaire, il vient d'avoir 16 ans. Son père est fier de lui, c'est un homme à présent. Il peut donc l'emmener
à la chasse
au faisan. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il va falloir prier pour guérir la petite sœur. Atteinte de mongolisme jusqu'au plus haut degré, elle va au catéchisme, mais fait peur au curé. Aujourd'hui c'est dimanche, un grand jour pour Jean-Louis. Son père lui a offert un merveilleux fusil. Il court dans le jardin pour buter un canard. Il n'y trouve que Brigitte faisant de la balançoire. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il va falloir prier, prier pour la petite sœur. Abattu par Jean-Louis de trois parents vainqueurs.
Tic-clic-pam, tic-clic-pam, tic-clic-pam.
Pas mal pour un début.
Ce soir, je vous parlerai d'une des nombreuses traditions bressanes. Et pour rester dans le thème de notre émission, je vous emmène à la pêche des temps, qui, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas l'apanage de la Dombe, le pays aux mille étangs. La Bresse, au sol argileux, est un pays d'eau propice aux cultures du maïs et du chanvre, et une région où se trouvent moult mares et étangs. La petite commune de Vécourt, que je connais bien, possède 10% de sa SAU, surface agricole utile, en étangs. Sans parler d'anciens étangs asséchés, qui portent encore le nom d'étangs comme l'étang Jacques. D'ailleurs, les pluies continues de ce printemps ont tendance à les recouvrir d'eau. Revenons donc à la pêche d'étangs. Rien à voir avec une pêche à la ligne. Cette pêche doit s'anticiper, car on lève le plomb, c'est-à-dire que l'on ouvre une vanne dans le tout pour que l'eau s'écoule lentement de l'étang vers la rivière qui lui fait suite. Lentement pour que les poissons ne restent pas sur la vase, mais soient amenés doucement vers le bief au milieu de l'étang. Il faut environ 2 semaines pour effectuer cette opération. Je préciserai que ces pêches d'étang se déroulent entre les mois d'octobre et de fin février pour une raison simple. Si l'on vide un étang, il faut s'assurer qu'il sera rempli pour l'été grâce aux pluies et aux arrivées d'eau diverses. Imaginez-vous à la fin de l'automne ou en hiver, un dimanche matin à l'aube. Il peut faire très froid, gel et neige, ou il peut y avoir du brouillard. Un groupe d'une vingtaine de pêcheurs se dirige vers le fond de l'étang. Certains transportent un énorme filet dans un bac. Arrivé à une extrémité du bief, le filet est déployé. Les pêcheurs se mettent de part et d'autre et commencent à tirer le filet lentement en remontant le bief jusqu'à la levée. Les gestes sont mesurés, en cadence, pour éviter que les poissons ne s'échappent sous le filet, lesté de boules de plomb et garni de flotteurs en liège. C'est un travail de force, car le filet s'alourdit avec la charge des poissons. À cela s'ajoute la difficulté de se mouvoir, les bottes dans la vase. Il faut éviter les chutes. Arrivé près du tout, à la pêcherie, les pêcheurs disposent de bâtons fourchus, les fourchettes, pour relever le filet et ainsi empêcher le poisson de passer par-dessus bord. Le pêcheur en chef, équipé de cuissardes, pénètre dans l'eau jusqu'à la taille et grâce à la trouble, une grande épuisette, il effectue un pré-tri dans la masse grouillante des poissons. Ceux-ci sont ensuite déversés dans un trieur pour que les autres pêcheurs séparent carpes, gardons, tanches et brochets. Les doigts engourdis par le froid hivernal et parfois piqués par les poissons-chats qui, malheureusement, se sont faufilés au milieu des autres poissons. C'est la hantise des trieurs qui parfois doivent s'armer de cuillères pour se protéger les doigts. La particularité d'une pêche en Bresse est que la plupart du temps, elle est suivie d'une vente sur la chaussée. Un véritable circuit court qui était une tradition. Chaque étang a sa date de pêche. À Montalibor, c'est le dernier dimanche de novembre. Et pourquoi, me direz-vous ?
Et oui, pourquoi ?
Eh bien, pourquoi ?
Pourquoi ?
Simplement pour que les Bressans puissent se procurer leurs poissons frais de la semaine pendant la saison. Nous sommes bien loin des arrivages réguliers de poissons de mer, ou plutôt des filets de poissons tout prêts dans les rayons des grandes surfaces. Et l'accueil des clients est soigné. Pour leur permettre de patienter en attendant l'arrivée du poisson, très souvent, une fabrication de gaufres bressanes, tartines de fromage fort et vin chaud sont là pour les réchauffer auprès d'un feu de bois. Malgré cela, la clientèle sur la chaussée ne cesse de diminuer. Peut-être que quand le filet de cabillaud sera à 40 euros le kilo, les gens retourneront aux pêches d'étang pour acheter de la carpe à 3 ou 6 euros le kilo et fraîchement sortie de l'eau. Il leur restera le plus dur. Regardez le poisson dans les yeux avant de lui ôter la vie. Plus facile de manger un filet ou un poisson pané qui ne ressemble pas à un poisson. Ces pêches existent encore pour l'instant et sont sans doute l'un des derniers chantiers agricoles. De ceux qui réunissent pour quelques heures des hommes et des femmes pour s'entraider avant de partager un grand repas ensemble à l'heure où bien des paysans se retrouvent seuls sur leur ferme avec leur tracteur.
Sur une boîte de conserve, sur un pigeon d'argile, vin Dieu, c'est pas pareil. Pour les chasseurs, les vrais, il faut de la chair tiède avec du sang vermeil. Pour les chasseurs, les vrais, il faut que ça palpite de plumes et de ramages. Il faut que ça ait peur, il faut que ça se sauve, bref, que ce soit sauvage. La chasse, c'est le défoulement national, c'est la soupape des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. Chaque mois de septembre, le plumé au chapeau, ils partent comme en 40. Ranimer la flamme du chasseur inconnu qu'avait du poil au ventre. En carte comme les putes, ils draguent à embouiller, ils tapinent en Sologne. Mais quand ils tirent leur coup, le client de passage se réveille à charogne. La chasse, c'est le défoulement national, c'est le coït des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix.
Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir depuis la ferme des Bruyères à Lécheroux pour un moment que je partage avec Pierre Bernard et avec son petit-fils Quentin Fossurier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, Quentin, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots la ferme des Bruyères, ce que vous y faites, combien vous êtes à travailler pour qu'on connaisse un petit peu mieux le fonctionnement de cette exploitation ?
Oui, alors sur la ferme, on est à peu près une dizaine de personnes à travailler. On est en polyculture, élevage, transformation, vente directe. donc avec les productions différentes qui sont le chèvre, le fromage de chèvre, le porc depuis 2008 et récemment à mon installation le canard gras, voilà, depuis 2020. Voilà, on fait tout sur la ferme et on essaie d'être au maximum en autonomie alimentaire.
D'accord. Donc si on en a parlé un petit peu, la particularité du coup, c'est comme vous gérez toute la transformation et autres sur une cinquantaine d'hectares, donc vous êtes 10 à travailler, ce qui est une particularité.
C'est ça, oui, sur 50 hectares, oui. On est une dizaine à travailler. Donc on est 4 associés, on a 3 salariés avec nous, on est une vraie équipe. Et en plus de ça, on a 2 temps partiels qui viennent nous épauler pour tout faire, voilà.
D'accord. Donc on va revenir sur la production de canard gras, parce que c'est un peu une surprise de retrouver ça en Bresse. Mais peut-être un mot à Pierre, le grand-père, puisqu'a priori, donc, la génération qui est la vôtre a lancé la vente directe.
Oui, effectivement, on faisait des cornichons pour une maison de conserve. C'était pas très rentable, donc on est parti faire le marché sur Bourg-en-Bresse en 1981. Ça date pas d'aujourd'hui. Et puis après, sur le marché, on me demandait des légumes, donc on s'est mis à produire des légumes que mon épouse allait vendre sur le marché à Bourg-en-Bresse.
D'accord, donc des légumes dans les années 80, la diversification a fait qu'il y a eu la charcuterie, le fromage et maintenant le canard. Donc le canard, c'est un peu surprenant parce qu'on n'est pas dans le sud-ouest, donc... Quentin, elle vient d'où cette passion pour le canard ?
Donc j'ai fait un bac agricole aux Sardières. Suite à ça, j'ai fait un certificat de spécialisation en élevage caprin. Et au bout de cette année de formation, on m'a proposé un stage à Saint-Pierre-et-Miquelon en élevage caprin. Et en fait, là-bas, comme l'île n'est pas très grande, il n'y a seulement que 2 fermes. Et sur la deuxième ferme, il y avait donc une production de canard gras. Et c'est là-bas que j'ai découvert le monde du canard gras. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça, puisque chez nous, il n'y avait qu'un seul producteur qui était déjà en place dans le département de l'Ain. Et comme le travail m'avait bien plu, donc voilà l'histoire. Quoi.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Donc quelque part, ce qui t'a aidé à te lancer, c'était la ferme des brouillards qui existait déjà avec des débouchés, une équipe, un mode de fonctionnement. C'est Mais ça. Tu as souhaité effectivement avoir ta propre production pour aussi être... avoir la main sur une partie quand même substantielle de ton travail.
C'est ça, oui. C'est vrai que le support, entre guillemets, de la vente, la commercialisation était déjà pas mal fait, quoi.
C'est quelque chose qui nous semble intéressant, parce que c'est vrai qu'on est ce mois-ci, au niveau de notre émission de radio, sur effectivement le thème de la tradition. Et c'est vrai que je souhaitais effectivement partager ce moment avec vous, puisqu'effectivement, on entend beaucoup de choses depuis quelques mois sur l'agriculture, effectivement, et... l'exemple de la ferme des Brouillères montre qu'on peut effectivement avoir la tradition, notamment dans les savoir-faire et dans la production, mais ça ne veut pas dire qu'on reste figé, puisqu'en fait, il y a des nouveaux produits, il y a des nouveaux débouchés, et il y a une nouvelle génération, puisque c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton âge, mais tu es encore tout jeune.
Oh, je me suis installé à 23 ans et j'en ai 28 maintenant. Quoi.
Voilà, donc effectivement, on a des perspectives de développement en Bresse de l'agriculture, avec un savoir-faire et des traditions, mais aussi en regardant vers le futur.
C'est ça.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Depuis que ça existe quasiment, en fait, la ferme des Brouillères participe à l'événement de ferme en ferme.
Oui, depuis même le départ, depuis 2008. Toujours la même date, le dernier week-end d'avril, et c'est pour nous, on estime que c'est important, parce que ça permet donc à nos clients et donc peut-être aussi de futurs clients la transparence. Voilà. Ça permet que quand ils nous retrouvent sur les marchés ou dans nos magasins collectifs, quand ils achètent un fromage, quand ils achètent une côte de porc, eh ben, ils ont vu ce que c'était. C'est vraiment nos cochons, c'est vraiment nos fromages. On leur a expliqué comment on a travaillé en amont. Et donc comme ça, ils ont vraiment le visu. Et sur notre ferme à nous, on essaye d'accentuer sur le mot fermier. Parce qu'on est des producteurs fermiers, ça veut dire qu'on fait tout sur la ferme. Et ça, c'est important, et ce mot-là n'est jamais mis assez en valeur, et les gens le connaissent peu. C'est pas des produits juste faits à la ferme, on est des producteurs fermiers, voilà.
Ok, donc de ferme en ferme, c'est le week-end du 27 et 28 avril. Je crois avoir lu sur le dépliant qu'il ne faut pas forcément réserver, qu'on peut venir, et qu'il y aura possibilité de se restaurer à la ferme des Brouillères, à l'Échroux.
Oui, tout à fait, oui, il n'y a pas de réservation du tout. On fait donc visiter toute la ferme. La visite dure à peu près 45 minutes. Il y a une dégustation à la fin de la visite. On fait aussi visiter notre fromagerie. Et après, oui, le samedi midi et le dimanche midi, les gens peuvent se restaurer sur place. On fait donc un manger, donc charcuterie de canard, jambon à la broche avec frites et fromage de la ferme, tarte bressane d'une ferme d'à côté pour 17 euros. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que le message est passé. Et bravo à vous, puisque je crois que plus que des grands discours, c'est une démonstration qu'on peut effectivement avoir la cheville au corps, la tradition, et quand même aller de l'avant, et puis aller de l'avant pour quelque chose qui est important, pour qu'on mange tous mieux, bon et plus sain. Donc merci à vous, et puis rendez-vous le 27 et 28 avril.
Pas de souci, merci.
Il est 5 heures du matin, lorsque je réveille les chiens. Rex Montec est la poêle rouge, a une balle dans le genou. Et Josiane, mon Doberman, non, sa mère, c'est ma femme. D'abord le petit déjeuner, choc à pic et Beaujolais. Pour l'énergie, c'est vital, autant que mon gilet pare-balles. Sans oublier les tartines, pâté de foie, rillettes, sardines. Me voilà sur le pied de guerre, aussi beau qu'un militaire, prêt à retrouver les copains au lieu d'y les marcassins. Je prends mon fusil, ma besace, y'a pas à dire, ça fait classe. Chasse, pêche et biture, nous on respecte la nature. Chevrotine, canard et c'est notre match.
En direct du musée des Beaux-Arts de Marseille, je suis devant une œuvre qui s'impose pour notre émission du mois. Ah mince, notre émission est passée à la radio. Et là, je vous parle de quelque chose de visuel. Bon, alors je vais vous décrire ce que je vois. Je suis devant un tableau de Rubens, peintre formé à Anvers à la fin du XVIe siècle. Il part en Italie au début du XVIIe. Bon, ces tableaux mettent en scène des drames, des passions humaines. Ces personnages, influencés par le Caravage et Michel-Ange, sont comme des sculptures colorées. Comme on le voit dans ce tableau, de 2,50 m sur plus de 3 m, c'est une chasse aux sangliers. Une chasse aux sangliers. Bon, à l'époque, en tout cas, Rubens peint beaucoup de chasse. Chasse au loup et au renard, chasse au lion, chasse à l'hippopotame, au crocodile. Bon, exposé à Marseille, on peut voir la chasse aux sangliers, qui représente une chasse à court. En haut, des cavaliers, des nobles, acculent l'animal. À gauche, des hommes en toge brandissent des piques. Et puis en bas, il y a des animaux qui sont déjà morts. Bon, et il se trouve que toutes les diagonales de cette œuvre nous ramènent, nous imposent l'œil rouge, rougi du sanglier. Cet animal en train de mourir, on ne peut pas échapper à son œil. Et lui-même ne peut pas échapper à ses chasseurs. Cette œuvre est une belle façon de glorifier la noblesse, qui sont d'ailleurs les commanditaires du tableau. Donc la chasse, c'est une pratique qui est réservée à la noblesse. Et effectivement, c'est un signe de richesse, puisqu'elle sous-tend la possession de terres, de forêts. Elle montre des hommes dominants. Bon, c'est une image, cette image de la chasse au sanglier est une image très à la mode en peinture au XVIIe siècle. Peinture de cour, une peinture où effectivement on a les codes politiques de cette noblesse dominante. Aussi, un peu plus tard, avec la Révolution française en particulier, on a une pratique de la chasse qui se développe et qui est peut-être comme une revanche du peuple sur la noblesse. Voilà, la noblesse obligée de céder ses droits en la matière. Voilà, la chasse n'est plus un domaine réservé à la noblesse. Voilà, écoutez, je poursuis ma petite visite au musée des Beaux-Arts.
Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Cendrillon ravi de quitter sa cage, met sa robe neuve et ses bottillons. Et bras dessous vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Il ne savait pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qu'ils transperçaient les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons. Quand il se fit tendre, elle lui dit : je présage que c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse aux papillons.
Brique et pavé,
l'émission qui dérange.
Bonjour, alors moi je suis Louis Poget, étudiant en deuxième année de communication et marketing à l'ISCOM sur Lyon. Et à côté, je suis également bénévole, donc responsable des communications pour l'association Avenir et Tradition en Bresse, une toute nouvelle association qui a été créée en 2021 pour reprendre l'organisation de la fête du vin cuit. Le vin cuit qui est une marmelade de pommes et de poires que l'on fait cuire pendant plus de 20 heures dans des grands chaudrons en cuivre. Et cette manifestation s'organise à la ferme de la Forêt, à Courte, dans une ferme bressane, du coup une ferme typique là où se faisait le vin cuit à l'époque. Il faut savoir que le vin cuit est une tradition d'antan qui a plusieurs centaines d'années maintenant. Et à l'origine, le vin cuit était fait pour ne pas perdre les fruits qui étaient tombés au verger et que du coup on ne pouvait pas conserver pendant l'hiver, parce qu'autrefois rien ne se perdait dans les fermes. Aujourd'hui, on voit également que les traditions sont au cœur de nos sujets, puisque la ferme de la Forêt vient d'être restaurée par Grand-Bourg Agglomération, et on a bien vu avec les artisans que toutes les techniques de construction d'antan, avec tout ce qui est torchis, mais aussi l'utilisation du bois et des ressources qu'on a directement sur le lieu d'exploitation de la ferme, sont vraiment au centre des recherches autour du bâtiment. On voit de plus en plus d'architectes qui se reconcentrent avec des techniques plus ancestrales, les techniques de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, avec un retour autour de la nature, une reconnexion vraiment entre l'habitat et la nature. On a aussi, ça me fait penser à une citation de Michel Cripeau qui dit « Le vrai progrès, c'est une tradition qui se prolonge ». Et donc on voit un petit peu ça, nous, avec notre association. On organise donc la fête du vin cuit où on a plus de 300 bénévoles qui viennent interagir avec nous et avec qui on crée des liens. Dans ces bénévoles, on a de tout âge, c'est aussi ça les traditions, c'est aussi des générations qui apprennent à des nouvelles générations, donc c'est quelque chose d'assez important. L'année dernière, on a eu la chance de pouvoir travailler avec des CM2 de plusieurs écoles. Et donc voilà, la tradition, c'est aussi un fil conducteur pour créer du lien, pour monter une genèse, si on peut utiliser ce terme, sur un territoire, pour partager des valeurs. Voilà un petit peu la tradition, et donc du coup c'est quelque chose de très actuel et qui vit toujours ces traditions. On a d'autres associations qui sont un petit peu partenaires avec nous, comme par exemple l'Écomusée de la Bresse de Saint-Étienne-du-Bois, qui organise d'autres manifestations autour de ces traditions, et ça rencontre toujours un franc succès, et donc ça montre quand même un intérêt et la modernité de ces traditions.
D'abord il y a eu la paix. La paix qu'on entretenait chacun en posant un flingue sur la tempe de l'autre. Puis il y a eu les hommes, beaucoup d'hommes, et que des hommes. Pour bien faire tenir tout ça, on a mis des murs, dans les têtes, dans le ciel, dans le désert, dans la mer. Fallait pas qu'on s'inquiète, on avançait, sans progresser, certes, on faisait croire, on avançait. Mais c'est comme tout. Pendant une chute, on croit toujours au volet. Si c'est la fin de ce monde, ok. Si c'est la fin de ce genre humain sans humanité, ok. Si c'est la fin de l'autodestruction, ok. On nous a trop demandé d'unir nos forces. On pourrait unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses.
Allez, allez, reste, allez, reste, allez, reste, on est fort. C'est pas demain la veille, c'est putain de vie que fera la mort. Que fera la mort. Nous, nous sommes des filles et des garçons manqués. Nous, nous sommes le sol qui se dérobe sous nos pieds. Nous, nous sommes les témoins du monde qui régresse.
dans le visage de la sagesse. Nous sommes la preuve du contraire. Ouais, les coups de pied dans la portière, nous sommes la réussite par l'échec, nous. Des mauvaises filles, des mauvais mecs, nous sommes des attardés du cœur, quelques balles dans le corps. Ouais, des présumés capables, des roues un peu sales. On dégenre, on dérange, ouais, on dérange, tu dégages, nous on marche la nuit dans la vie, soit on s'emmerde, soit on fuit, nous sommes des cartes bleues bloquées. Ouais, nous sommes des rendez-vous ratés.
On retrouve Agnès qui est vraiment un puits de science, qui sait plein de choses à propos des traditions bressanes et qui va nous expliquer, mais pourquoi donc est-ce qu'on dit que les Bressans étaient des ventres jaunes? Je crois que tu as plusieurs hypothèses.
Eh oui, oui, c'est très compliqué de dire quelle est la bonne. Alors la première qui vient sans doute du Mâconnais, peut-être de la Bourgogne carrément, c'est que les ventres jaunes sont appelés comme ça parce qu'ils avaient de l'or sous leur ceinture. Mmh. Le côté un petit peu riche et radin. Celle-ci, je la réfute parce que le paysan bressan, dans sa glaise, dans son argile, il était pauvre. Obligé de faire la culture, polyculture élevage, pas possible. À mon avis, je peux me tromper. Mais bon, voilà. Deuxième version, la version le maïs. Le maïs, puisque le bressan... Il n'y a pas que les volailles qui mangeaient du maïs, les paysans y mangeaient du maïs. Okay. La farine de goutte, farine de maïs torréfiée, c'est ce qu'on dit maintenant. Hein. Mm-hmm. À l'époque, on disait farine de maïs grillée. Mais torréfiée, ça fait plus chic. Donc, peut-être à cause du maïs, il avait le ventre jaune.
Et comment il l'appelait le maïs, tu nous as dit ?
Alors, le maïs, bah, quand il a été importé d'Amérique, alors en Bresse, il y a deux mots pour le maïs. Ou bien loupéne, ou bien loutrki. Et loutrki, ça vient de Turquie, parce qu'il croyait que le maïs venait de Turquie. En fait, je pense qu'il avait transité par... Ce n'était pas du maïs. Par l'Afrique du Nord. Et voilà, il pensait qu'il venait de Turquie. Troisième version... Alors, la version que j'ai entendue, mais je n'ai pas pu la vérifier parce que je n'étais pas née à cette époque-là, c'est que le baudrier savoyard était jaune. Alors, pourquoi savoyard? La Bresse a appartenu à la maison de Savoie, ce qui explique d'ailleurs les querelles avec l'autre côté de la Saône, la Bourgogne, puisque duché de Bourgogne, duché de Savoie, ils n'étaient pas
c'est
trop
copains.
C'est historique. Mmh. C'est pour ça qu'il y a un petit peu des guéguerres qui restent encore maintenant, même s'ils n'ont plus lieu d'être. Et il semblerait que le baudrier savoyard, donc une partie de l'uniforme des armées savoyardes, était jaune. Ouais. Dernière version, beaucoup moins glamour. J'ai également entendu dire par des gens qui étaient venus en visite à la ferme qu'en Sologne, on appelait les gens également des ventres jaunes. Et ça serait dû aux maladies liées aux étangs, aux marais, donc ce type de jaunisse, malaria, liées à ces maladies-là. Donc, le doute persiste et je ne suis pas sûre que nous ayons quelqu'un pour vérifier tout ça.
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
Donc, c'est parti pour le rigodon.
Bien mieux danser le rigodon de Bresse, les jeunes et les vieux, au sortir de la messe. C'est notre façon à nous de remuer les fesses. On n'a pas de leçon à prendre du show business. Sont là, affirme avec fougue. Nous on aime bien mieux danser
rigodon de Bresselet. Je n'ai les vieux qu'au sortir de la messe. C'est notre façon à nous de remuer les fesses. On n'a pas de leçon à prendre du show business.
La radio est un véritable éveil des sens. En ce mois d'avril, j'ai le mot tradition en tête de l'aube à l'aube et une partie de la matinée. Et boum, synchronicité, plein de choses surgies du passé, sauf tramway. Le week-end dernier, sur la route entre l'Est et l'Ouest, j'ai d'abord croisé le musée du lavage et du repassage dans l'Allier, à Verneuil en Bourbonnais plus exactement. Eh bien oui les amis, ici, 5 siècles de techniques et de ruses pour venir à bout des faux plis nous sont comptés. Quelques heures et ronds-points plus tard, voilà-t-il pas que mon regard s'égare sur la pancarte du musée de la chaussure à Saint-André-de-la-Marche, dans le Choletais. Je connaissais le musée international de la chaussure à Romans, dans la Drôme, eh bien, il n'a pas le monopole de la tradition du chaussage. À Sèvres-Moine, autre nom de Saint-André-la-Marche, je n'ai pas visité le musée. En effet, il ne réouvre que le 5 mai. Pourtant, dans ce monde où la tradition est trop souvent instrumentalisée et se pare d'odeurs rances et nauséabondes, je suis certain que l'exposition à venir, qui s'appelle « Quel pied ?», doit être bucolique et rafraîchissante. Vive la curiosité, la tradition, les musées improbables, avec une spéciale dédicace aux bénévoles qui les font vivre.
Je tombe du plume, mon amour dort encore du sommeil de l'enclume. Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas. Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là? Sur un cheval sauvage, ils s'en vont ridicules. Dehors y a un orage, ils sont mouillés, c'est nul. Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche. Musette sur l'épaule, saucisson, bière fraîche. Quand le soleil arrive, mon amour se réveille. Le cœur à la dérive, les yeux pleins de sommeil. Téléphone à sa mère, qui est sa meilleure amie. Paroles éphémères et tout petits soucis. J'aimerais bien entendre ce qu'elle dit de moi. C'est sûrement très tendre, enfin bon, j'entends pas. Moi je plante mon hameçon tout en haut d'une branche. Je tire sur le nylon, me ruine une phalange. Le jour avance un peu, mon amour se maquille. Un œil et puis les deux, c'est futile mais ça brille. Qui veut-elle séduire? Je suis même pas là. Je me tue à lui dire qu'elle est mieux sans tout ça. Que ses yeux sont plus clairs quand ils sont dans ma poche. Que vouloir trop plaire, c'est le plaisir des moches. Moi je sors une truite d'au moins 120 kilos. J'ai pitié trop petite, je la rejette à l'eau.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Merci les amis pour cette chouette émission. On vous dit à tout bientôt et notamment le 1er mai à la Grange aux Parapluies pour se retrouver pour la fête des jeux en construction avec plein d'animations, des artistes qui seront là. On vous attend nombreux et nombreuses à partir de 14h30 et puis on en profitera, ce sera le thème de la prochaine émission. Oui. Allez, on fait des gros bisous, bisous, bisous. Ciao.
Son clocher, son école, sa place, ses cafés, son crédit agricole est juste à côté. Sa mairie fleurie, son microclimat, sa gendarmerie, pas de cinéma, son hôtel, le Lion d'Or, son camp de manouche. Quand la ville s'endort, pas de quartier louche. Ses concours de pêche, le
long du canal. Ses gens dans la dèche, son artiste local. Bienvenue à Rio. À vélo dans la rue centrale, le fils du veto, champion régional, ses chants, ses pylônes, à mesure qu'on s'approche, ses vieux aux dents jaunes et l'ombre des poches, son terrain de foot, ses méchouis de septembre. Très souvent je redoute ce qu'on peut y entendre. Ces petits commerçants, ces barouches qui aboient, ces adolescents qui ne reviendront pas. Bienvenue à Rio. Toubibs foireux, de père en fils, ces bouquets miteux, de feux d'artifice, sa grande surface, rue de l'avenir, une dédicace des jours à venir. Ohé les amis, ma vie est ici.
Pavé pour aujourd'hui, c'est terminé.
Retrouvez-nous en podcast sur le site de Radio B
ou sur le site de la Grange au Parapluie.
Briques et Pavés,
l'émission qui dégrange.